Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Le Premier ministre irakien est à Prague ce jeudi, d'abord pour négocier d'achat d'avions L-159. Le président Václav Klaus a entamé une visite de 2 jours en Pologne. La République tchèque est le 2e pays européen le moins subventionné dans le cadre du programme d'aide alimentaire aux plus démunis. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki effectue une visite en République tchèque ce jeudi, accompagné d'une délégation composée de plusieurs ministres. Il a été reçu par son homologue Petr Nečas. Les échanges commerciaux entre les deux pays, encouragés par la signature d'un nouvel accord, ont constitué un des principaux thèmes de leur discussion. C'est d'abord la vente des avions d'entraînement avancé et d'appui tactique L-159 fabriqués en République tchèque, pour laquelle des négociations sont en cours depuis plus d'un an, qui est au cœur de l'intérêt des deux parties. Comme annoncé ce jeudi par le Premier ministre Petr Nečas, l'Irak est toujours intéressé par l'achat de ses avions. Les négociations vont toutefois se poursuivre vendredi au cours d'une rencontre entre le ministre tchèque de la Défense, Alexander Vondra, et son homologue irakien, Sadoun al-Dulaimi. À Prague, le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki s'est résolument opposé aux rumeurs selon lesquelles l'Iran survolerait l'Irak pour livrer des armes à la Syrie secouée par la guerre civile. Nouri al-Maliki a déclaré que l'espace aérien de l'Irak ne pouvait dans aucun cas être utilisé pour transporter des armes à destination du régime de Damas, comme le craignent depuis quelque temps les États-Unis. D'après le Premier ministre irakien, la situation en Syrie ne peut être résolue que sur la base du dialogue entre les parties du conflit. Le chef du gouvernement tchèque Petr Nečas, quant à lui, s'est réjoui de la stabilité et de la sécurité de l'Irak après le retrait des forces américaines en décembre 2011. Après s'être entretenu mercredi avec le président allemand Joachim Gauck, Václav Klaus entame ce jeudi probablement sa dernière visite en Pologne en tant que président de la République. À l'issue de sa rencontre avec son homologue Bronislav Komorowski, le président tchèque a déclaré que la Pologne était, à ses yeux, le pays le plus proche de la République tchèque. La sécurité énergétique et les infrastructures de transport ont été au menu de leur débat. Le président polonais a évoqué l'achèvement l'année prochaine de la construction de l'autoroute qui reliera les deux pays. Vendredi, Václav Klaus et Bronislav Komorowski inaugureront le forum commercial tchéco-polonais et ensuite Václav Klaus et son épouse Lévia se rendront à Cracovie où ils rendront hommage au couple présidentiel Kaczynski décédé dans un crash d'avion en avril 2010. La République tchèque va recevoir 183 000 euros en 2013 en provenance du programme européen d'aide alimentaire aux plus démunis. Cette subvention est la deuxième la moins importante de toutes celles attribuées aux 19 des 27 pays membres de l'Union européenne bénéficiant de cette aide. Au total, 500 millions d'euros sont distribués. Les chiffres ont été communiqués par la Commission européenne. Les viticulteurs de Bohême et de Moravie ont effectué environ les 3/4 de leurs vendanges pour cette année sur la base des premières estimations. Après que les vendanges ont débuté dans certaines régions fin septembre, l'Union nationale des viticulteurs prévoit une baisse du volume de raisins récoltés d'environ 30% par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Les conditions climatiques défavorables au printemps puis la sécheresse très importante cet été sont la cause de cette baisse. Côté météo, les nuages seront au rendez-vous sur la majeure partie du territoire tchèque vendredi, jour de la fête des Marcel. Le soleil sera plus présent dans la partie est du pays, tandis que des averses pourront se produire dans la partie ouest, notamment en Bohême centrale et en Bohême du Sud. Les températures varieront entre 7 et 12 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Pierre Maignan.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité et merci à Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information. Au sommaire aujourd'hui, une étude pour le moins inquiétante sur l'alcoolisme en République tchèque. Le nombre de personnes dépendantes de l'alcool y atteindrait 700 000. Ça sera dans quelques minutes. Il y aura aussi le portrait en deuxième partie d'émission de Jitka Rirtažíková qui constitue une pointure dans les études démographiques tchèques et françaises et qu'a rencontré pour vous Magdalena Hrozinková. Mais Guillaume Narguet vous propose tout d'abord de revenir sur la visite du président allemand Joachim Gauck en République tchèque. Bonne écoute à tous et à toutes. Pour la première fois depuis la tragédie de juin 1942, un chef de l'État allemand a visité mercredi le village martyr de Lidice, à une vingtaine de kilomètres de Prague, en cette année du 70e anniversaire du massacre perpétré par les nazis. Joachim Gauck a tenu à rendre hommage aux victimes sur les lieux du drame, un geste symbolique qui a été fortement apprécié en République tchèque. Guillaume Narguet.
Un déjeuner au château de Prague, un échange de vues très opposé sur l'Union européenne avec son homologue Václav Klaus, une réception au siège du gouvernement, un passage à l'ambassade d'Allemagne, mais surtout, une visite de 2 heures en fin de journée à Lidice. Ce passage dans le village de Bohême centrale, rasé par les nazis en représailles de l'attentat proféré contre le protecteur Reinhard Heydrich, le premier d'un président allemand depuis la guerre, devait constituer le temps fort de la visite de Joachim Gauck en République tchèque mercredi. Et ce passage a bien été le temps fort attendu. Avant de se rendre à Lidice, le président allemand avait déjà tenu tout au long de la journée à souligner la qualité des relations tchéco-allemandes aujourd'hui, rappelant que, au regard de l'histoire encore relativement récente et notamment de l'occupation de la Tchécoslovaquie par les armées hitlériennes, il s'agissait presque d'un petit miracle.
Je suis très reconnaissant au président Klaus de m'accompagner à Lidice. Tous les deux, nous sommes nés pendant la guerre et que soit joué l'hymne allemand au château de Prague n'est une évidence pour aucun d'entre nous. Nous nous souvenons très bien quels autres Allemands ont occupé cet endroit et de quelle autre musique y a été jouée. C'est pourquoi je suis très heureux que nous puissions vivre aujourd'hui la sympathie réciproque des deux pays.
Ce message de paix et de ce devoir de mémoire vis-à-vis des jeunes générations a également été celui du président tchèque Václav Klaus.
Je suis très heureux que le président Gauck se rende à Lidice aujourd'hui. Nous sommes tous les deux de la même génération et nous sommes convaincus de la nécessité d'être capables de parler de cette histoire douloureuse aux générations futures pour ne pas oublier ce qui s'est passé.
Cette visite très attendue à Lidice avait été précédée en juin dernier, au moment des cérémonies du 70e anniversaire du drame, d'une lettre adressée par Joachim Gauck à Václav Klaus. Une lettre dans laquelle le président allemand avait déjà exprimé son sentiment de honte et insisté sur la responsabilité de son pays. Dans ce contexte chargé d'une émotion visiblement sincère, Joachim Gauck s'est refusé à aborder l'autre dossier historique délicat des relations tchéco-allemandes, à savoir les revendications des Allemands des Sudètes expulsés de Tchécoslovaquie après la guerre.
C'est ma première visite ici et si je suis là, c'est pour exprimer mon profond respect et rendre hommage à toutes les victimes des assassins nazis. Je n'entends donc pas évoquer d'autres questions. Le destin des personnes innocentes qui vivaient ici en Tchécoslovaquie avant la guerre m'intéresse beaucoup aussi, bien entendu. Viendra un moment où il sera temps d'aborder cette question, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais je considère cela comme une affaire interne à la République tchèque et il ne m'appartient pas de me mêler à ce débat. C'est à la société tchèque de réfléchir à ce qui s'est réellement passé ici avec la population allemande à la fin de la guerre.
Le 10 juin 1942, quelques jours après la mort de Reinhard Heydrich, protecteur de la Bohême-Moravie victime d'un attentat à Prague, les soldats allemands avaient rasé le village de Lidice. 173 hommes âgés de 16 à 84 ans y avaient été fusillés et environ 90 enfants tués dans des camions transformés en chambres à gaz. Quant aux femmes de Lidice, elles avaient été déportées dans le camp de concentration de Ravensbrück. Au total, seuls 17 enfants et 143 femmes du village ont survécu à la guerre. Parmi ces enfants, Marie Choupikova, qui était âgée de 10 ans en 1942, jeudi, elle aussi était présente à Lidice pour accueillir et s'entretenir avec le président Gauck.
La plupart de ceux que cela concernait, les femmes de Lidice, ne sont plus parmi nous. Cela fait 70 ans que nous attendions que quelqu'un nous présente ses excuses. Même s'il vient trop tard, j'ai beaucoup d'estime pour le geste du président allemand. Il n'est pas responsable de ce qui s'est passé, mais en tant que chef d'État, il assume partiellement la faute et en accepte la responsabilité. Il s'efforce de s'excuser auprès de nous qui sommes encore vivants.
Aujourd'hui, sur le site de l'ancien village, se trouve un mémorial, avec notamment la tombe commune des hommes de Lidice, un musée, une statue dédiée aux enfants disparus. Et jeudi, Joachim Gauck aura donc été le premier responsable politique allemand de première stature à s'être excusé de l'existence de tout cela, le premier depuis 70 ans.
Selon une récente enquête réalisée par les psychiatres du centre de soins individuels de Prague, 700 000 personnes alcooliques vivraient en République tchèque, deuxième plus grand consommateur d'alcool au monde selon un rapport de l'OMS paru en 2011. On savait les Tchèques portaient sur la boisson. Pour autant, pas même les médecins ne s'attendaient à un chiffre aussi important. Une autre étude, publiée au sortir de la prohibition partielle il y a 2 semaines, faisait quant à elle état de 200 000 hommes alcooliques dans le pays. Zdeněk a 27 ans et il est originaire de la ville de Pardubice. Le jour où il a décidé d'aller se faire soigner, il avait 4 grammes d'alcool par litre de sang et assez logiquement, ses jambes ne le supportaient plus. Il raconte avoir pris l'habitude de boire environ 8 litres de boissons alcoolisées diverses chaque jour, principalement du vin et souvent la bouteille la moins chère. C'est un divorce, un accident de la route sans gravité et la perte de son emploi qui l'ont amené à se réfugier dans l'alcool. L'histoire de Zdeněk est rapportée par le quotidien Lidové Novini, qui publie cette étude pour le moins inquiétante. Selon les psychiatres du centre de soins individuels de Prague, 700 000 personnes seraient dépendantes de l'alcool en République tchèque, soit environ 6,6% de la population du pays. Ce chiffre est presque 2 fois supérieur aux estimations des études précédentes et, selon Lidové Novini, inquiète le monde médical alors que la République tchèque vient de traverser une crise sanitaire grave liée à de l'alcool coupé au méthanol. Cette crise a été responsable de l'intoxication de près d'une centaine de personnes et de la mort de 28 d'entre elles. Pourtant, les Tchèques ne semblent pas avoir modifié leurs habitudes de consommation, stables depuis 2 décennies selon l'OMS. Pour le sociologue Jiří Sjostřenek, l'alcool est une drogue inscrite au cœur des pratiques sociales du pays.
En règle générale, je pense que les Tchèques utilisent l'alcool comme une drogue légale et rituelle. Dans toute célébration de n'importe quel groupe social que ce soit, il y a toujours de l'alcool. Et c'est plutôt celui qui ne boit pas ou qui ne trinque pas qui paraît d'une certaine façon suspect. Car l'alcool nous aide à nous montrer tel que nous aimerions être en réalité. Il nous libère.
Parfois, cette libération est une aliénation. Selon les statistiques de la police, 1/3 des meurtres recensés entre janvier et août de cette année ont été commis sous l'influence de l'alcool. De même, 85% des auteurs de violences domestiques sont alcooliques. Bien souvent, ce sont les catégories de population les plus touchées par la misère sociale qui sont prédisposées à l'alcoolisme, comme le note Jiří Sjostřenek.
Comme toute dépendance à une drogue, je pense que l'alcool est un problème social. Partout où il y a des taux élevés de chômage, des conditions sociales difficiles, les gens sont plus enclins à consommer des drogues. Cela leur permet d'oublier et les aide, entre guillemets, à résoudre leurs problèmes quotidiens.
Même si l'alcoolisme, qui a tué près de 10 000 personnes en République tchèque l'année dernière, est un problème social, c'est aussi une maladie qu'il convient de soigner. À l'instar de Zdeněk, 25 000 personnes ont décidé, en 2011, d'arrêter la boisson et de suivre des soins auprès des autorités compétentes. Près de 10 000 d'entre elles se sont même laissées enfermer pour suivre un traitement. Selon un médecin cité par Lidové Novini, il ne s'agit cependant là que de la partie émergée de l'iceberg. Pour lutter contre l'alcoolisme, le gouvernement envisage pour sa part, une hausse de 10% du prix des boissons alcoolisées, une mesure qui ne combat cependant pas le mal par la racine, comme l'explique Ladislav Semi du centre psychiatrique de Prague.
En général, il est reconnu que l'accès à l'alcool influence la consommation. Le prix aura donc certainement un rôle à jouer. Mais sur le long terme, les hausses des prix, que ce soit ici ou à l'étranger, ont montré qu'après une baisse, la consommation aurait trouvé son niveau habituel au bout d'un certain temps. Dans une certaine mesure, la seule hausse du prix de l'alcool ou un simple changement d'imposition n'aura pas d'effet stable à long terme.
Ladislav Tsemi ajoute qu'il faut insister sur la prévention des risques liés à l'alcool. Une hausse des prix pourrait même avoir des effets pervers, puisque les personnes les plus dépendantes se tourneraient alors vers des alcools de moindre qualité ou d'autres substances similaires. Jerzy Siostronek pense ainsi que si la prohibition des alcools forts s'était prolongée, la situation se serait aggravée car les gens auraient commencé à boire n'importe quoi. Professeure à l'université Charles, Jitka Rirtažíková est l'une des plus grandes spécialistes tchèques de la démographie. Elle y est arrivée un peu par hasard alors qu'elle était étudiante en géographie, en s'intéressant aux résultats du recensement de 1970 dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Parfaitement francophone, elle a ensuite l'occasion d'étudier la démographie en France, discipline à l'époque encore non indépendante dans son pays d'origine. À l'issue de ce séjour, elle a obtenu en 1976 le diplôme de démographie générale à l'université de Paris 1. Jitka Rirtažíková, l'invitée aujourd'hui des Tchèques célèbres et moins célèbres, a accueilli Magdalena Rozinková dans son bureau à la faculté des sciences naturelles dans le quartier Pragua d'Albertov. Elles ont discuté de l'évolution ces 30-40 dernières années de la situation démographique en République tchèque et en France. Mais tout d'abord, Jitka Rirtažíková a bien sûr évoqué ce premier séjour à Paris qui allait déterminer sa future carrière scientifique. Magdalena Rozinková.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Quand j'étais dans la cinquième année de l'étude, il y avait un professeur français, Roland Pressa, qui est très renommé, qui est venu ici de donner des cours. Il a été présent pendant la soutenance de mon mémoire. J'étais aussi son guide, j'ai traduit pour lui et c'était lui qui a finalement initié ma venue en France à l'INED, ce qui est l'Institut National d'Études Démographiques.
Et justement, c'était, j'imagine, plutôt exceptionnel au milieu des années 70 d'aller étudier dans un pays occidental, donc en l'occurrence en France.
Oui, c'était tout à fait exceptionnel, c'était très difficile, c'est-à-dire à l'époque il n'y avait pas de programme d'échange, c'est-à-dire moi j'ai été invitée nominalement, c'était l'INED qui m'a invitée, et donc sur le plan administratif c'était vraiment très difficile, et finalement je suis venue un peu plus tard que prévu, mais j'ai réussi à venir.
Et du point de vue scientifique, qu'est-ce que ce séjour d'études vous a apporté?
Je dois dire que mon séjour, c'était dans les années 1975-76. Oui, ça m'apportait beaucoup parce que à cette époque-là, la démographie française était quelque chose comme la puissance mondiale en démographie. J'ai eu la possibilité d'une part d'étudier à l'Université de Paris 1, à l'Institut de démographie, la démographie générale, et d'autre part d'être stagiaire à l'INED, à l'Institut national d'études démographiques, qui était à l'époque vraiment très renommé. Je dois dire que je bénéficie jusqu'à aujourd'hui de mes expériences, parce que moi, je préfère la démographie française, parce que la démographie française est plutôt orientée vers le contenu, et les méthodes, ce sont les instruments, comment découvrir la vérité démographique.
Et plus généralement, qu'est-ce que vous aviez 26 ans, si je ne me trompe pas, à l'époque?
Oui.
Quels sont les souvenirs que vous avez gardés de cette année passée à Paris?
Bien sûr, quand je suis venue à Paris à cette époque-là, je me suis sentie très enchantée, je me suis sentie libre, parce que pour la première fois, j'étais tout à fait indépendante. Être en France, avoir un petit logement pour moi, avoir la possibilité d'étudier, de travailler à l'INED. Donc, pour moi, c'était vraiment fantastique.
Et vous n'avez pas pensé une seconde de rester en France?
Oui, bien sûr, parce que la situation ici est difficile, mais le problème était qu'il y avait beaucoup de gens ici qui ont garanti mon retour. Je suis venue aussi en France, j'étais payée par la France. Le but était que j'apprends quelque chose en démographie et que je revienne et je vais disséminer la démographie en Tchécoslovaquie. Donc, dans ces conditions, il serait un peu malhonnête de ne pas revenir.
Donc, c'était l'époque du baby boom dans les années 70 en Tchécoslovaquie. Et je me souviens que vous avez dit dans une interview que à l'époque les spécialistes français venaient en Tchécoslovaquie s'inspiraient un peu de ce qu'on faisait ici parce que on avait un système très bien élaboré en fait de structures préscolaires, il y avait beaucoup de crèches, d'écoles maternelles, beaucoup de soutien de la part de l'État. C'est vrai ça?
Oui, c'est vrai, justement, c'était le premier, c'était ce monsieur Roland Pressat, après c'était le directeur de l'INED, Gérard Callot, qui sont venus étudier nos mesures natalistes, parce qu'à l'époque, soi-disant l'indicateur conjoncturel de fécondité, ce qui est le nombre moyen de naissances vivantes par femme, a été plus bas en France qu'en Tchécoslovaquie ou aussi en République tchèque. Donc c'est vrai qu'ils sont venus ici d'étudier non seulement le système des établissements préscolaires, c'est-à-dire les crèches, les écoles maternelles, qui ont été à l'époque très bien développés, qui étaient accessibles à bon marché, mais aussi à cette époque-là, le gouvernement a introduit le congé parental, ce qui était à l'époque quelque chose tout à fait neuf. Aussi, il y avait les prêts aux nouveaux mariés qui étaient très avantageux parce que l'intérêt était très bas. Il y avait un montant qui était déductible après la naissance d'un enfant. Il faut juger les conditions dans l'époque où ces conditions ont été réalisées. Donc, relativement à cette époque-là, la Tchécoslovaquie a été assez avancée concernant la politique familiale. Les Français ont pris des expériences et maintenant ils ont des enfants par femme. Tandis qu'en République tchèque, actuellement pour l'an 2011, on a seulement 1,4 naissances vivantes par femme. On va avoir moins de gens à l'âge actif, mais aussi ça contribue à la vitesse du vieillissement démographique parce que le pourcentage des personnes âgées va augmenter très vite, beaucoup plus vite qu'en France.
Quel est, selon vous, le principal changement démographique en République tchèque depuis la révolution de velours?
D'abord, c'est une baisse de l'indicateur conjoncturel de fécondité, c'est-à-dire au début des années 90, c'était à peu près 1,9 naissances vivantes par femme. Aujourd'hui, c'est 1,4, mais il y avait des changements structurels, il y avait une augmentation des naissances hors mariage qui était moins que 10%. Et maintenant, c'est plus que 40, c'est à peu près 42%. Et ce qui est très intéressant concernant le remariage des personnes divorcées, ici, il y a vraiment l'égalité des genres, c'est-à-dire la probabilité de remarier pour une femme divorcée est à peu près la même comme pour un homme divorcé, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Slovaquie ou en d'autres pays. Mais c'est vrai que le remariage des personnes divorcées baisse partout.
Et donc, dans les autres pays, ce sont plutôt
Les cohabitations, c'est-à-dire les gens qui ont une expérience avec le mariage préfèrent de plus en plus la cohabitation que de se remarier. Concernant la mortalité, c'est l'espérance de vie à la naissance qui a augmenté beaucoup, à peu près de, si on compare le début des années 90 à la situation actuelle, on voit l'augmentation à peu près de 7 ans pour les hommes et de 5 ans pour les femmes. Concernant la mortalité, j'aimerais dire une chose, que la République tchèque a le niveau très bas du taux de mortalité infantile, c'est 2,7 pour 1000 naissances vivantes, ce qui est même moins qu'en France.
Et est-ce que ces résultats donc, dont on vient de parler, est-ce que c'était prévisible pour vous, par exemple, en 1990?
Concernant la fécondité, au début des années 90, personne n'a prédit, parce qu'on ne savait pas si... C'était clair que la situation soit difficile pour les femmes, concernant surtout la conciliation entre la famille et le travail, mais on pouvait aussi imaginer que il y avait une partie des femmes qui restent à la maison, qui veulent avoir des enfants, mais malheureusement ce scénario n'avait pas lieu, c'était la baisse de la fécondité.
Et ça serait selon vous plutôt une preuve de responsabilité donc de la part des gens ou d'égoïsme?
Moi personnellement, je pense que c'est plutôt la question où c'est lié à la responsabilité des gens, parce que je crois que la société tchèque aimerait avoir les enfants qui peuvent avoir les conditions de vie meilleures que les parents. Donc, on voit les écoles, comment ça coûte, et toutes ces activités liées avec les enfants, parce qu'auparavant, c'était presque gratuit.
Et on parle de fécondité. Est-ce que je peux avoir une question personnelle? Avez-vous des enfants?
Oui, j'ai une fille.
Et avez-vous su bien concilier votre travail et votre famille?
Oui, à l'époque c'était très bien possible parce qu'elle a fréquenté la crèche, l'école maternelle. Elle est née en 1977, donc c'était à l'époque de ce deuxième baby boom de la République tchèque.
Jitka Rirtažikova donnera des cours en tant que prof invité au printemps 2013 à l'Université de Paris 1. Son portrait a été réalisé par Magdalena Rozinkova. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt.